RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous.
Ce soir, nous recevons Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, chargé des comptes publics. Donc, vous êtes le ministre de la dette. Autant dire qu'avec le Covid et avec l'explosion des dépenses publiques, vous n'êtes pas un ministre à la fête.
Ce n'est pas l'exercice le plus simple, mais la fonction que j'ai et les responsabilités que j'occupe ne se résument pas à la dette. La France sait répondre présent, et l'État sait répondre présent. Au cours de cette année 2020, face au Covid, nous avons engagé plus de 460 milliards d'euros avec des garanties d'emprunt au profit des entreprises, mais aussi avec des aides directes, je pense notamment au chômage partiel ou encore au fonds de solidarité, ou encore des reports d'exonération et parfois même des exonérations de cotisations sociales, voire de quelques dettes fiscales. Nous le faisons pour sauver l'économie. Cela a un coût, c'est effectivement de la dette, mais nous avons un objectif avec le plan de relance, c'est rétablir la situation pour justement arrêter de creuser cette dette et retrouver notre trajectoire de redressement et de rééquilibre des comptes publics.
À quelle échéance ?
L'échéance est difficile à préciser aujourd'hui. Ce que nous souhaitons, c'est que d'ici fin 2022, c'est-à-dire à la fin du plan de relance, puisque ce plan de relance est prévu pour durer pendant 2 ans, nous ayons retrouvé le niveau de production de richesse que nous avions fin 2019. Et là, nous aurons rattrapé le retard causé par le Covid et par l'arrêt d'activité pendant plusieurs mois. Et tout l'objectif est là, avoir une relance qui soit efficace, qui soit ciblée, avec 100 milliards d'euros que Bruno Le Maire a annoncé. Nous l'avons présenté ensemble devant la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Nous serons jeudi au Sénat pour nous livrer au même exercice. 100 milliards d'euros ciblés sur la relance économique, sur la transition écologique, sur la cohésion sociale. 100 milliards d'euros qui permettent de rebondir sans alourdir le poids de la dépense publique à terme dans notre pays.
Alors on va entrer dans les détails et on parlera...
Olivier Dussopt, la semaine dernière, lorsqu'il a présenté le plan de relance dont vous parlez, on viendra au plan de relance en lui-même, le Premier ministre a dit, je le cite, il est infiniment préférable de dégrader temporairement les comptes publics que de laisser la France s'enfoncer dans la récession. En tant que ministre des comptes publics, vous voyez vraiment les choses comme ça? On peut continuer de creuser la dette encore longtemps parce que c'est déjà considérable.
C'est ce que nous faisons à condition que ce soit justement ponctuel. Ce gouvernement, cette majorité, c'est caractérisé par la capacité pour la première fois depuis des dizaines d'années à tenir les engagements pris devant la communauté européenne et devant l'Union européenne. Cela faisait 3 années consécutives, 2017, 18 et 19, que nous avions un déficit inférieur à 3%. Ça n'était jamais arrivé. Nous avions stabilisé la dette. Nous avons diminué le poids de la dépense publique dans la richesse nationale et nous avions baissé le niveau des prélèvements obligatoires conformément à l'engagement du président de la République. En 2020, le Premier ministre l'a dit, nous dégradons les comptes publics. À l'heure où nous parlons, en fonction de ce que nous connaissons de l'activité économique, de ce qui a été voté par le Parlement, on estime qu'on pourrait avoir un déficit public à la fin de l'année de 11%. Ce qui est considérable, ce qui est même énorme, ce qui est assez conforme à ce qui se passe dans d'autres pays européens. C'est la raison pour laquelle la Commission a suspendu temporairement l'application des traités. Mais je le disais il y a un instant, ces réponses doivent être ponctuelles. Ponctuel, ça n'est pas une semaine, ça n'est pas un mois.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut redouter un effet de correction, très grande générosité en ce moment sur la dépense publique, et puis le jour où il va falloir resserrer un peu les comptes, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de bâton un peu dur ?
Si la question est là, nous n'augmenterons pas les impôts. Ouais. Et nous l'avons dit, nous le répétons, et nous le ferons. Nous sommes le gouvernement qui a le plus baissé les impôts depuis 40 ans, et nous voulons continuer à les baisser. Nous avons confirmé que nous irions au bout de la suppression de la taxe d'habitation. Nous avons confirmé que la baisse d'impôt sur le revenu de l'an dernier était maintenue. Et nous avons confirmé la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, nous travaillons sur la baisse des impôts de production pour permettre les relocalisations industrielles. Ce que je veux dire et ce que je veux expliquer quand je dis qu'il faut que ce soit ponctuel, ce n'est pas une question de retour de bâton. C'est simplement une question qui consiste à regarder ce que nous dépensons pour répondre à la crise et à faire en sorte que cette dépense ne soit pas une dépense qui se renouvelle année après année pendant des décennies. Lorsque je disais il y a un instant que nous avons consacré beaucoup d'argent au chômage partiel en 2020. C'est plus de 30 milliards d'euros, ce qui est absolument gigantesque. Ce qui a permis à la France d'être le pays dans lequel le revenu des salariés a été le mieux protégé. C'est une étude de l'OCDE qui le montre et qui le démontre. Lorsque nous prévoyons l'année prochaine plusieurs milliards d'euros pour financer l'activité partielle, c'est parce que nous savons que l'année prochaine, il y aura encore des traces de cette crise. Mais en 2022, si l'activité est revenue, nous n'aurons plus besoin de cet argent pour le chômage partiel. De la même manière que les 8 milliards d'euros que nous consacrons à aider les petites entreprises, et notamment celles qui ont été fermées pendant le confinement. l'aide de 1500 euros par mois pour les entreprises de moins de 10 salariés. Lorsque ces entreprises retrouvent leur activité, l'aide s'arrête parce qu'elles n'en ont plus besoin. Et donc, c'est en cela que je dis que c'est ponctuel, que ça ne soit pas des dépenses qui automatiquement se renouvellent année après année.
Alors, dans la grande générosité de l'État, il y a aussi, il n'est pas question qu'on se fiche de l'État.
Non, ça, je vous confirme.
Donc, vous confirmez. Et donc, vous traquez les fraudes au chômage partiel. Et visiblement, il y en a beaucoup.
Il y en a, malheureusement... Lorsque nous mettons en place des dispositifs avec des droits, avec l'accès à telle ou telle allocation, l'accès à telle ou telle aide, cela peut susciter une fraude. Et lorsque nous sommes dans une réponse urgente, comme celle que nous avons apportée, avec un processus
de détention... Vous avez distribué sans trop regarder, c'est ça ?
Non, c'était regardé, on ne peut pas le dire comme ça, mais en tout cas, l'obtention, les instructions, les procédures ont été beaucoup plus rapides. Ça peut susciter de la fraude, et malheureusement, parce que c'est un état de fait, il y a, dans tous les pays, je crois, et c'est le cas dans le nôtre, des hommes et des femmes qui considèrent que même en situation de crise, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires sur le dos du contribuable et finalement sur le dos de la justice fiscale.
Et comment vous les pincez ?
D'abord, nous les poursuivons, nous menons un travail conjoint avec le ministère du Travail. Bruno Le Maire et moi-même avons indiqué au service du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance qu'il fallait se mobiliser, identifier les flux financiers qui sont suspects, qui méritent une enquête. Nous nous appuyons par exemple sur le travail de Tracfin. Et à chaque fois que nous identifions un cas de fraude, que ce soit au chômage partiel, que ce soit au fonds de solidarité que nous avons créé pour les petites entreprises, évidemment, nous le poursuivons parce que tout détournement d'argent public est un coup de canif dans le contrat, est illégal, c'est un délit. Mais dans une période de crise, alors que l'État met des moyens comme jamais pour sauver l'économie, ces détournements sont encore plus insupportables.
Oui, alors, moralement, en effet, quelque chose d'en peut-être encore plus choquant, si tant est que la morale préoccupe les auteurs de ce genre d'affaires. Il y a évidemment avec la crise tout ce que vous dépensez, on vient d'en parler, et puis il y a tout ce que vous ne percevez plus. Est-ce qu'on sait à peu près à l'heure actuelle combien la crise a déjà coûté à l'État en manque de recettes?
Alors, lorsque nous regardons les différents documents budgétaires sur lesquels nous nous appuyons, le dernier document budgétaire qui a été adopté par le Parlement, c'est la loi de finances rectificative numéro 3, puisque nous en avons présenté 3 au Parlement, et qui, dans sa préparation, estimait que l'État perdrait en 2020 entre 65 et 70 milliards d'euros de recettes.
Ce
qui est considérable et ce qui vient s'ajouter à la fois aux dépenses supplémentaires et au report de cotisations, report d'échéances, voire aux exonérations. Nous avons un espoir, c'est que la reprise d'activité que nous connaissons puisse continuer,
Il va plutôt un peu plus vite que ce que vous espériez il y a quelques mois.
Cela dépend des secteurs et nous avons une vraie prudence, puisqu'il faut toujours veiller à d'éventuels effets retards, décalages dans le temps, donc nous sommes extrêmement prudents. Mais Bruno Le Maire l'a indiqué ce matin sur un autre plateau et sur un autre média. Nous présenterons bientôt le projet de loi de finances pour 2021. Ça sera l'occasion d'actualiser ces perspectives, ces prévisions. Et évidemment, si la reprise économique nous permet de revoir la récession, puisque nous parlons de récession, et qu'elle soit un peu moins importante que prévu, que la perte de recettes soit moins importante, nous le traduirons et nous l'inscrirons dans ces documents-là. Nous le faisons avec prudence, mais vous avez raison de le souligner. C'est une crise qui se traduit à la fois par des dépenses supplémentaires, et je le répète, nous faisons tout pour qu'elle soit ponctuelle et pas pérenne, et par une perte de recettes. Et cette perte de recettes, pour qu'elle ne soit pas pérenne non plus, il faut produire de la richesse, il faut retrouver notre niveau de PIB, l'indicateur même de la richesse, pour qu'avec un taux de prélèvement obligatoire constant, nous puissions retrouver ce niveau de recettes et ainsi financer les politiques publiques.
Alors Olivier Dussopt, vous en parliez, donc la semaine dernière, le Premier ministre a donc présenté ce plan de relance, donc un plan massif de 100 milliards d'euros. Est-ce que ce sera aussi, parce qu'on va parler de cette fonction de ce plan de relance, est-ce que c'est de nature aussi à rendre confiance aux Français pour qu'ils reconsomment ?
C'est l'objectif. Nous voulons, avec le plan de relance, je le disais, retrouver notre niveau de richesse, mais pas seulement. Il s'agit aussi de transformer notre modèle économique. C'est la raison pour laquelle un tiers du plan de relance participe directement à tout ce qu'on appelle le verdissement, la transition écologique, la conquête de nouvelles énergies qui ne soient pas polluantes et qui permettent aussi de sortir de notre dépendance au pétrole en particulier. C'est un plan qui vise à soutenir l'industrie, les créations d'emplois industriels sur le territoire et donc la production dans une logique de souveraineté économique. Et c'est un plan qui a une troisième priorité qui est la cohésion sociale, qui est de retisser des liens et de protéger les plus fragiles. Je pense à l'allocation pour l'activité partielle de longue durée. Je pense aussi au financement, certaines mesures d'investissement dans les hôpitaux, puisque les discussions qu'on appelle les discussions de Ségur ont montré que c'était nécessaire. Et donc, ce plan est là pour cela. Il est là pour accompagner la
transformation. Mais des plans, il y en a eu plein, vous êtes d'accord? Il y en a eu cinq, des gros plans de relance.
Jamais aussi importants.
Jamais aussi massifs, c'est vrai, mais il a le mérite effectivement d'être massif. Mais généralement, les critiques qu'on fait à ces plans de relance, c'est qu'à la fois, ils sont mal distribués et qu'ils mettent du temps à se mettre en œuvre. Nous, est-ce que ce défi-là, vous pensez pouvoir
nous allons relever ce défi-là. Nous allons le relever. D'abord parce que le plan a été préparé avec tous les ministères, mais pas seulement. Avec les collectivités locales, avec les acteurs socio-économiques, pour cibler les actions les plus utiles, les plus opportunes et les plus rapides à mettre en œuvre. Et nous veillons à ce que ce plan soit piloté. Il sera piloté à la fois au niveau national par le Premier ministre, il sera suivi chaque semaine au sein des services de Bercy, par l'équipe de ministres à Bercy. Et nous veillons, c'est un point auquel nous sommes extrêmement attentifs avec Bruno Le Maire, à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des clauses de revoyure. C'est-à-dire que si demain vous êtes en charge d'une opération du plan de relance, d'une action prévue dans le plan de relance, et que au mois de mars, au mois de juin 2021, vous ne l'avez pas mise en œuvre, vous n'avez pas suffisamment avancé le travail pour le faire, alors que vous nous aviez dit que c'était prêt.
Oui, il faut que les Français le sentent dans la vie quotidienne.
On se laisse la possibilité d'annuler des crédits pour financer d'autres opérations. Il faut que ce soit rapide et efficace, et ces 100 milliards doivent être engagés pendant l'année 2021 et pendant l'année 2022.
Olivier Dussopt, la semaine dernière, donc Jean Castex, lorsqu'il a présenté ce plan, a dit, je le cite à nouveau, « J'appelle les ménages à consommer et investir plutôt que d'épargner ». Beaucoup disent que la consommation est en effet l'une des clés, sans doute, de la relance et de la reprise de l'économie française. On sait qu'une centaine de milliards d'euros ont été épargnés pendant le confinement. Mais au-delà de cet appel du Premier ministre à ce qui est une forme de civisme économique, en quelque sorte, qu'y a-t-il vraiment dans ce plan qui puisse donner envie aux Français de casser leur tirelire et de taper dans l'épargne qu'ils ont constituée, qui est une épargne de précaution dans l'esprit de beaucoup d'entre eux dans ce moment d'inquiétude?
C'est une épargne de précaution parce que la situation est inquiétante et que c'est normal, lorsqu'il y a une crise, d'avoir des inquiétudes. C'est aussi la démonstration que nous avons, ce que je disais tout à l'heure, protéger le revenu des Français, puisque dans une période extrêmement compliquée de confinement, d'arrêt d'activité, le cumul de plusieurs choses, à la fois le maintien des revenus,
du chômage partiel
et l'arrêt de la consommation, a amené à cette épargne. Comment est-ce qu'on convainc les Français de libérer cette épargne et d'investir? D'abord en relançant l'économie. Parce que la meilleure façon
Le plan, il est très tourné vers l'offre.
Non, mais justement,
ça a été dit par Jean Castex. Est-ce que les ménages n'ont pas été un peu oubliés?
Mais j'y viens. En relançant l'économie, parce que lorsque vous relancez l'économie, que vous créez des emplois, que vous donnez des perspectives d'emploi aux Français, vous levez leurs inquiétudes et vous les incitez à investir. Et puis, les ménages n'ont pas été oubliés. Ils n'ont pas été oubliés puisque les 30 milliards de chômage partiel que j'ai évoqués, qui ne sont pas dans les 100 milliards, mais que nous avons dépensés, c'est le soutien au pouvoir d'achat des ménages. Les aides que nous avons apportées, la majoration de 100 euros de l'allocation de rentrée scolaire, c'est du soutien au pouvoir d'achat. Depuis le mois de juin au juillet, vous pouvez à la fois rénover votre logement avec un système de primes qui s'appelle MaPrimeRénov, que le plan de relance va amplifier. De la même manière que vous pouvez être accompagné et mieux aidé qu'avant par l'État si vous changez d'automobile pour aller vers une automobile moins polluante. Donc des dispositifs d'aide, il y en a beaucoup, à la fois pour les ménages qui peuvent investir dans des rénovations thermiques et énergétiques, dans de l'achat de véhicules, et pour les ménages les plus en difficulté, avec des aides pour l'hébergement d'urgence, parce que ça peut être utile, des aides aussi pour les associations de solidarité. Il y a un pilier sur la cohésion sociale auquel nous tenons vraiment beaucoup.
Alors, monsieur le ministre, le gouvernement affirme que c'est le plan le plus massif des pays européens, mais l'Allemagne va injecter une somme bien supérieure. Alors, c'est vrai que le gouvernement français a beaucoup donné pendant la crise, et pas dans qui ne compte pas dans ce plan de relance. Mais est-ce que vous ne craignez pas que l'Allemagne reprenne une avance industrielle sur nous?
Je ne crois pas, et c'est... Cela pour deux raisons. D'abord parce que vous avez raison, lorsqu'on additionne, si on peut le dire ainsi, à la fois les crédits de réponse à l'urgence et les crédits de relance, nous sommes sur des montants très comparables. Et surtout, lorsqu'on regarde quel est le poids, ce que représente la réponse à la crise par rapport à la richesse nationale, en pourcentage de richesse nationale, nous sommes aussi sur des montants comparables. Et au-delà de cela, un des objectifs que nous avons avec ce plan de relance, je le disais, c'est la question de la souveraineté économique et de la reconquête industrielle. Cela passe par du soutien public à un certain nombre de filières, et notamment par des appels à projets. Je pense à la filière hydrogène qui a été présentée ce matin par Barbara Pompili et Bruno Le Maire, à tout ce qui relève de la décarbonation. Cela passe aussi par une mesure très forte, qui est la baisse des impôts de production, puisque nous allons baisser les impôts de production.
Alors certains disent que c'est un cadeau au capital,
d'environ 10 milliards d'euros. C'est avant tout un cadeau pour l'attractivité des territoires. lorsque vous avez des impôts qui ont la particularité de taxer les entreprises avant qu'elles aient produit le premier euro de richesse, ça peut être un vrai souci et d'installation et d'attractivité.
Malgré cette baisse, ils resteront très au-dessus de la moyenne européenne.
Vous avez raison de le souligner, mais personne ne les avait jamais baissés jusqu'à maintenant. Et tous les acteurs économiques...
Les entreprises disent c'est très bien, mais on peut mieux faire.
C'est un tiers de la différence avec la moyenne européenne.
Le Premier ministre a dit qu'il fallait réarmer l'industrie française. Aujourd'hui, quelle est l'industrie qui manque à la France?
La période que nous avons traversée, de confinement, d'arrêt ou de ralentissement extrême du commerce international, nous a montré que dans un certain nombre de secteurs, nous n'étions plus en situation de souveraineté sur un certain nombre de médicaments et de principes actifs, sur des questions qui relèvent de l'informatique, ou en tout cas des composantes pour le numérique, ou encore sur des questions relatives à l'énergie, et notamment dans une période où les échanges internationaux ralentissent. Et donc, nous avons la volonté, par les appels à projets que j'ai évoqués, par la protection de nos filières, par la formation aussi, et il y a des crédits pour la formation, nous avons la volonté de recréer, de restructurer ces filières.
Mais concrètement, ces principes actifs, l'ibuprofène ou le qui sert pour les médicaments,
il faut les produire ici.
Aussi. Voilà, ils sont produits en Chine. Est-ce que
Cela passe par l'accompagnement des filières que j'ai évoquées. Ça passe aussi par la diminution des impôts de production que j'ai évoqués.
Et ça, c'est
évoqué.
À quelle échéance? Parce que
les impôts de production baisseront de 10 milliards le 1er janvier. Sur les appels à projets pour les filières d'avenir, le plan de relance qui a été annoncé contient des crédits, mais la loi de finances numéro 3 de juillet dernier avait déjà prévu 500 millions d'euros qui sont disponibles pour permettre d'accompagner les filières et de financer les premiers appels à projets. Et donc, ça souligne que nous avons annoncé un plan de relance de 100 milliards il y a quelques jours, qu'il va être inscrit dans la loi de finances pour 2021 et 2022, mais que dans ce que nous avons fait précédemment, en mars, en mai, en juin, nous avons aussi prévu des crédits pour que les actions soient efficaces tout de suite. C'est cette loi de finances numéro 3 de juillet dernier qui prévoit les crédits permettant aux entreprises qui embauchent des jeunes de moins de 26 ans d'avoir une prime pour l'embauche. C'est cette loi de finances de juillet dernier qui prévoit aussi des crédits pour augmenter les aides à l'embauche d'apprentis. Et donc, les choses sont prêtes. Les principaux dispositifs sont déjà sur la table, sont activables et à la disposition des entreprises.
On arrive quasiment au terme de cette émission. Vous n'avez pas trop mal à la tête tous les jours avec ces chiffres quand même
Non, d'abord, j'ai la chance d'aimer ça. Ouais. Et j'ai la chance de le faire dans une équipe gouvernementale qui est soudée et dans une équipe de Bercy qui est très soudée. Et c'est une responsabilité, nous la partageons avec toute l'équipe de Bercy. Il faut apporter les financements pour la relance et avoir en tête que même le ciel a des limites. Et qu'à un moment, la trajectoire de finances publiques, il faut aussi la tenir.
Alors moi aussi, j'ai un chiffre à gérer, là, c'est celui du compteur. On a terminé. Merci, David.
Merci à vous.
Merci beaucoup.